Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Bonjour, 14h temps universel, il est 16h ici à Paris.
Charlotte Idrac.
De nouvelles frappes israéliennes contre l'Iran en ce moment après des tirs de missiles iraniens contre l'État hébreu. Le ministre de la Défense israélienne menace Téhéran brûlera, dit-il, en cas de nouveaux tirs. On y revient dans un petit instant. À la une aussi ce samedi, des manifestations contre la politique de Donald Trump aux États-Unis. Le 40e anniversaire de l'espace Schengen de libre circulation entre pays européens. Et puis le coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs de football, format XXL et affiches inédites. Oui, plusieurs raids israéliens en cours là cet après-midi sur plusieurs sites en Iran. L'État hébreu affirme avoir la maîtrise du ciel dans tout l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. La capitale iranienne n'est plus à l'abri, prévient le porte-parole de l'armée israélienne au deuxième jour de l'opération baptisée Rising Lion qui a fait au moins 78 morts côté iranien. Mais le bilan va s'alourdir puisque l'armée israélienne dit avoir tué plus de 20 commandants dans la haute hiérarchie des forces de sécurité iraniennes. Téhéran a riposté avec des tirs de missiles balistiques la nuit dernière contre Israël. Le bilan est de 3 tués, 7 soldats ont aussi été blessés. Les autorités israéliennes le martèlent depuis hier. L'objectif de l'opération, selon elles, c'est bien de démanteler les capacités nucléaires de son ennemi juré. Même si des experts affirment que l'Iran est encore loin de disposer de capacités de frapper avec des armes atomiques. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, était notre invité à la mi-journée.
Vous savez, dans le développement de capacités militaires, il y a énormément de choses qui ne sont pas connues par le public. Si nous avons décidé de faire cette opération, c'est que nous sommes certains de pouvoir y aboutir.
De pouvoir éradiquer complètement le programme nucléaire, pas juste de le retarder.
Vous savez, regardez, il y a eu deux différentes occasions, il y a eu des événements dans lesquels Israël a débarrassé le Moyen-Orient de programmes nucléaires illicites. C'était en Irak et en Syrie. Dans les deux cas, des experts internationaux disaient que c'était impossible et que de toutes les façons, ça allait repousser le programme de plus un ou deux ans. Et dans les deux cas, les deux dictateurs ont disparu. Mais quand ils étaient encore en vie, ils n'avaient pas repris leur intention de développer une arme nucléaire. Alors, les experts, souvent, sont des experts civils qui ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Encore une fois, je répète d'une façon très claire, si nous avons décidé de faire cette opération, c'est que nous pensons, que nous savons que nous pouvons y aboutir.
L'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, répondait à Guilhem Delteil. L'Iran, qui a fermé son espace aérien jusqu'à nouvel ordre en Israël, l'aéroport international Ben Gurion est fermé également. Un nouveau cycle de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran sur le programme nucléaire iranien était prévu en principe demain dimanche à Oman, mais les autorités de Téhéran ont indiqué que ces discussions étaient désormais vides de sens. La diaspora iranienne suit cette situation avec des sentiments ambivalents. La plus importante se trouve sur la côte ouest des États-Unis. Ce sont notamment des exilés. Reportage de nos envoyés spéciaux à Los Angeles, Abla Jounaidi et Bertrand Eclair.
Appréhension, soulagement, tristesse pour les civils touchés. Le sentiment des habitants est mitigé à Pershing Square, l'un des quartiers iraniens américains de Los Angeles. Tony, qui souhaite garder l'anonymat, tient une des nombreuses boutiques du quartier.
Vous savez, Israël fait exactement pareil qu'au Liban avec le Hezbollah. En éliminant les chefs, l'organisation s'est effondrée, comme si on enlevait la tête à un serpent.
Comme Tony, des générations d'exilés vivent ici, espérant à terme la chute de la République islamique. Rosbeh Farhanipour a été à la tête du mouvement de protestation étudiante de 1999. Aujourd'hui, il tient un restaurant. Il ne croit pas que le changement viendra d'une intervention extérieure.
Je ne suis plus à la tête du mouvement de protestation en Iran, mais je suis la situation. Je donne des conseils aux gens en matière de désobéissance civile pour planifier leurs actions. C'est cela qui amènera le changement. C'est comme ça que nous avions fait trembler le régime. C'est ce dont je suis le plus fier. Le 8 juillet 1999, lorsque le leader suprême Ali Khamenei avait pleuré à la télévision. C'était grâce à nous.
Pour l'heure, ces Iraniens de la diaspora suivent anxieusement sur leur téléphone les dernières nouvelles venues d'Iran. Abla Junaidi, Bertrand Eclair, Los Angeles, RFI.
Cette confrontation avec Israël, un tournant pour l'Iran et toute la région. On y revient bien sûr dans toutes nos éditions, également dans l'émission géopolitique tout à l'heure autour de Clotilde Dumay et ses invités. Ce sera à 17h10 temps universel. On était il y a quelques instants à Los Angeles, en Californie, où des manifestations sont prévues aujourd'hui, comme à travers différentes villes des États-Unis, manifestations contre la politique du président Trump. Journée baptisée No King's Day, jour sans roi, allusion aux accusations par les opposants de dérives monarchiques du pouvoir. Le chef de l'État lui organise dans le même temps à Washington une grande parade militaire pour fêter en grande pompe les 250 ans de l'armée, ce qui coïncide aussi avec son 79e anniversaire. Autre anniversaire ce 14 juin, les 40 ans de l'espace Schengen, espace de libre circulation entre pays européens, qui rassemblait à l'origine les trois pays du Benelux, l'Allemagne et la France, et qui compte aujourd'hui 29 États membres. 40 ans après sa création, l'espace Schengen est fragilisé par le retour des contrôles aux frontières dans certains pays, au nom de la lutte contre l'immigration illégale. Pourtant, Jean-Dominique Julien est le président de la Fondation Robert Schuman. Il souligne que l'Union européenne a les moyens de renforcer l'espace Schengen. Elle s'est dotée des outils nécessaires. Il suffit juste, à son avis, de les utiliser.
Un pacte asile-immigration pour essayer de mieux contrôler l'immigration irrégulière et même l'immigration régulière. Un contrôle des frontières qui est informatisé et qui permettra par exemple d'avoir le même système qu'aux États-Unis pour contrôler qui rentre dans l'espace et des fichiers pour aider à lutter contre la grande criminalité. Tout ça a été adopté déjà par les gouvernements, par nos ministères et la mise en œuvre s'étale entre 2026 et 2027 parce que c'est très compliqué. Encore une fois, on ne peut pas faire librement circuler les marchandises et les capitaux et dire aux hommes, vous restez derrière les murs et les frontières. Ce n'est plus possible techniquement. On peut avoir des policiers français à la frontière à Vintimille parce qu'on a connaissance de passages clandestins en masse, mais ça n'est pas durable et ce n'est pas applicable à toutes les frontières.
Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman avec Daniel Valot. Un nouvel échange de prisonniers aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, c'est ce qu'annonce le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est le quatrième en une semaine, rare avancée entre les deux belligérants dans le cadre des pourparlers d'Istanbul en Turquie. Le foot est le top départ pour la Coupe du Monde des clubs. Ce soir, nouvelle formule de cette compétition rêvée par Gianni Infantino, le président de la FIFA, affiche inédite format XXL. 32 équipes de tous les continents sont sur la ligne de départ pour un peu plus d'un mois de compétition. En match d'ouverture tout à l'heure, l'Inter Miami face au Al Ahly du Caire. L'Inter Miami, le club d'un certain Léo Messi, a bientôt 38 ans. L'Argentin brille en Floride où il est devenu une icône, un ambassadeur même, Thomas de Saint-Léger.
C'est un temple Messi en plein Miami. Des chaussures siglées au célèbre maillot rose numéro 10, le plus vendu au monde, tout y est. Ici, l'homme au pied gauche magique est une marque, sa présence une révolution pour le sport américain. Michel Kaufmann, journaliste au Miami Herald.
Il y a un avant et un après Messi. Partout où il va, il y a des centaines de personnes qui l'attendent devant son hôtel. On n'avait jamais vu ça pour un footballeur, même pour un basketteur de la NBA. Messi, c'est comme une religion.
Un culte pour les adeptes, une source de curiosité pour les autres. Messi fait venir les Américains dans les stades de soccer et pas seulement là où les communautés latinos sont très présentes.
Quand l'Inter Miami joue à l'extérieur, les adversaires déplacent le match dans des stades plus grands, dans des stades de football américain. Et les gens viennent pour avoir la chance de voir Messi jouer.
Un effet Messi dont bénéficie toute la MLS, la Ligue de soccer nord-américaine. Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami, et ancien coéquipier du numéro 10 avec la sélection argentine.
C'est le moment idéal pour se développer. Léo joue dans le championnat, il y a le mondial des clubs cette année, la Coupe du Monde l'été prochain. Et évidemment, Léo a une influence majeure dans tout ça.
Mais même la magie, Messi a ses limites. Faute de demandes suffisantes, les billets pour le match d'ouverture ce soir sont vendus à prix cassé. 65 000 spectateurs sont espérés. Thomas Saint-Léger, Miami RFI.
L'Inter Miami face à l'Arly du Caire, ce sera à minuit, temps universel. Pour l'heure, on retrouve Valérie Nivelon pour la Marche du Monde. Bonne émission.